et une couche de virtualisation. La virtualisation est à la mode. Cela permet de lancer un Linux dans un Linux, un Windows dans un Linux, etc. Mais que se passe-t-il lorsque l'on presse la touche A ? Le début de l'histoire, on le connaît déjà. Le vrai matériel transmet un scan code au noyau qui le convertit en la lettre A. Et la passe via un TTY à l'application. Il se trouve qu'ici, l'application, c'est un outil de virtualisation. Il contient un clavier virtuel, c'est-à-dire un bout de code qui, du point de vue du noyau invité, se comporte comme un vrai clavier sous forme logicielle. En fait, il va se contenter de simuler la puce i8042 dont on a parlé plus haut. Lorsque le clavier virtuel récupère le A depuis le TTY, il stocke le scan code y correspondant dans une variable qui correspond au registre de l'i8042 et génère une interruption. À partir de là, on connaît aussi déjà l'histoire. Le traitant d'interruption du noyau invité interroge la puce i8042 virtuelle pour savoir quelle touche est pressée, la transmet à la couche TTY, puis l'application la récupère, décide de l'afficher sur le TTY. Un driver vidéo s'occupe alors de l'afficher. Intervient alors une carte graphique virtuelle. Dans le cas d'un vrai matériel, la carte vidéo balaye périodiquement sa mémoire pour savoir ce qu'elle doit afficher. La carte graphique de l'outil de virtualisation fonctionne typiquement de la même manière. Régulièrement, elle a observé ce qui a été écrit dans la mémoire vidéo virtuelle. Pour optimiser, les outils de virtualisation utilisent souvent des méthodes de bit dirty pour savoir efficacement quelles zones de l'écran ont été modifiées. L'outil de virtualisation envoie alors une version rafraîchie de l'écran sur le TTY et de nouveau, à partir de là, on connaît la musique. Un driver vidéo s'occupe de l'envoyer dans la mémoire vidéo de la vraie carte graphique et l'écran affiche finalement notre A. Alors bien sûr, pour simplifier, j'ai pris l'exemple du mode texte. Le lecteur pourra s'amuser à faire le dessin avec en plus une couche graphique. Bon, mais est-ce qu'il n'y a pas eu une entourloupe ? Et si ? Comment l'outil de virtualisation fait pour deviner comment transformer le A en scan code ? Eh bien, il essaie de deviner. Et il y a des cas où il se plante, forcément. Dans le cas des outils de virtualisation en mode graphique, puisque le serveur X leur envoie le K-code, ils peuvent retraduire cela en scan code sans se tromper, quelle que soit la disposition de touches utilisées dans la machine hôte. C'est ensuite à l'utilisateur de configurer la disposition de la machine invitée pour avoir ce qu'il désire. Dans le cas des outils de virtualisation en mode texte, ils ne récupèrent qu'un code ASCII. Ils ne peuvent pas savoir la disposition du clavier de la machine hôte et ne peuvent donc qu'essayer de le deviner pour reconvertir ce code ASCII en scan code. Éventuellement, l'utilisateur peut indiquer à l'outil quel clavier il utilise. C'est l'option K de KemukaVM. S'il y a une erreur à ce niveau, le résultat peut être assez loufoque. Si à la fois l'OS hôte et invité sont configurés en AZERTY, mais que l'outil croit que l'OS hôte est en QWERTY, le A va être converti en scan code 30, car sur un clavier QWERTY, le A est sur la première touche de la deuxième rangée de lettres. L'OS invité, étant configuré en AZERTY, va donc le traduire en la lettre ASCII Q. Ce qui n'est pas ce qui était désiré. Si par contre l'OS invité est configuré en QWERTY, typiquement parce qu'il est en train d'être installé, il va traduire correctement, mais à tort en fait, le scan code 30 qu'il croit être un A de QWERTY en A. comportement on ne peut plus bizarre. Pour avoir des lettres correctes, on a l'impression qu'il faut laisser l'OS invité en QWERTY. Inversement, lorsque l'OS invité écrit dans la mémoire vidéo, comment est-on sûr que c'est un A ? En effet, l'encodage utilisé par la police de caractère chargée par l'OS invité n'est pas nécessairement un encodage ASCII. Il se trouve, par chance, que c'est le cas la plupart du temps.